aimé comme toi. Relève-moi.
Vous écoutez KTO Radio, il est 14h. KTO Radio présente à haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, la Divine Comédie de Dante Alighieri. Chant 14e. Qui est celui-là qui parcourt les cercles de notre mont avant que la mort lui ait donné le vol et qui ouvre et ferme les yeux à son gré? Je ne sais qui il est, mais je sais qu'il n'est pas seul. Demande-le-lui, toi qui es plus près, et afin qu'il parle, fais-lui un doux accueil. Ainsi, deux esprits penchés l'un sur l'autre discouraient là de moi à main droite. Puis, pour me parler, ils renversèrent la tête et l'un dit « Ô âme, qui encore unie au corps t'en va vers le ciel, par charité console-nous, et dis-nous d'où tu viens et qui tu es. De la grâce qui t'est faite, nous sommes étonnés, autant qu'on doit l'être d'une chose qui auparavant ne fut jamais. » Et moi, par le milieu de la Toscane s'épand un petit fleuve qui naît dans le Falterona, et qu'un cours de 100 000 ne rassasie pas. De ses rives, j'apporte ce corps. Vous dire qui je suis serait parler en vain, mon nom encore ayant peu retenti. Si mon intelligence saisit bien ta pensée, me répondit alors le premier, tu parles de l'Arnaud. Et l'autre lui dit, pourquoi a-t-il caché le nom de cette rivière comme on le fait des choses horribles? Et celui à qui cette demande était faite ainsi s'acquitta, « Je ne sais. Mais bien est-il juste que périsse le nom de ce fleuve qui, de sa source, ou le mont alpestre dont le Péloré est un tronçon, d'eau abonde tellement que peu de lieux en cela le surpassent, jusque-là où il se rend pour renouveler ce que le ciel évapore de la mer, d'où les fleuves tirent ce qui avec eux va, ne rencontre que gens qui tous, tenant la vertu pour ennemi, la fuient comme une couleuvre par le malheur du lieu ou par la mauvaise habitude qui les aiguillonne. D'où tant ont changé de nature les habitants de la misérable vallée qui semble que Circé les ait eus dans ses pâturages. Parmi de sales pourceaux, plus dignes de glands que d'une autre nourriture à l'usage de l'homme, il dirige d'abord son maigre cours, puis descendant, il trouve des roquets plus hargneux que ne le comportent leur force, et d'eux il détourne son museau dédaigneux. Il descend encore, et plus il grossit, plus le fleuve maudit et néfaste trouve de chiens qui se font loups. Ayant ensuite traversé des ravins plus sombres, il trouve les renards, si pleins de fraude qu'ils ne craignent point qu'aucune habileté les vainque. Je le dirai, quoique d'autres m'entendent, eh bien s'en trouvera celui-là s'il se souvient de ce qu'un esprit vrai me dévoile. Je vois ton neveu qui devient chasseur de ces loups sur la rive de l'horrible fleuve et les épouvante tous. Il vend leur chair vivante, puis il les tue comme on tue une vieille bête. Beaucoup de la vie et lui d'honneur il prive. Sanglante, il sort de la triste forêt, telle il la laisse que, comparée à ce qu'elle fut jadis, d'ici à 1000 ans, elle ne se reboisera pas. Comme à l'annonce de cruels désastres, se trouble le visage de celui qui écoute, de quelque côté que le péril le menace, ainsi vis-je l'autre âme, qui se tenait tournée pour entendre, se troubler et s'attrister après qu'en soi, elle eût recueilli les paroles. Le dire de l'une et la vue de l'autre me rendirent désireux de savoir leur nom, et je les demandais avec prière. Sur quoi celui qui le premier avait parlé recommença. Tu veux que je condescende à faire ce que tu n'as pas voulu faire pour moi? Mais puisqu'en toi Dieu veut que t'en reluise sa grâce, je ne te refuserai pas. Sache donc que je suis Guido del Duca. Mon sang fut si enflammé d'envie que si quelqu'un j'avais vu se réjouir, de jalousie tu m'aurais vu livide. De ce que je semais, une telle paille je moissonne. Ô humaine espèce, pourquoi mets-tu ton cœur là d'où doit être exclu ton compagnon? Celui-ci est Rinieri, l'ornement et l'honneur de la maison de Calboli, où nul ne s'est rendu héritier de sa vertu. Et non seulement sa race, entre le Pô et le Mont et la mer et le Renault, est devenue pauvre de biens requis pour jouir du vrai et du contentement, mais au-dedans de ses limites, tant abondent les plantes vénéneuses que sans fruits désormais serait une culture tardive. Où est le bon Licio et Arrigo Menardi, Pierre Traversaro et Guido di Carpigna? Ô Romagnols tombés en bâtardise, lorsqu'à Bologne un Fabreau se fait de haute lignée, lorsqu'à Faenza un Bernardino di Fosco d'une herbe rampante devient la noble tige. Ne t'étonne point, ô Toscan, si je pleure lorsqu'avec Guido da Prata je me rappelle Ugolin d'Azzo, qui vécut avec nous, Frédéric Tignoso et ses compagnons, la maison Traversara et les Anastagi, et l'une et l'autre race est déshéritée, si je pleure les dames et les cavaliers, les soucis et les joies qu'en eux excitaient l'amour et la courtoisie, là où les cœurs sont devenus si mauvais. Ô Bretinoro, que ne fuis-tu, puisque ta famille avec tant d'autres s'en est allée pour ne pas se corrompre? Bien fait, Bagnacavallo, qui ne veut point de fils, et mal, Castrocaro, et pis, Cogno, plus empressé d'engendrer de tels comptes. Bien feront les Pagani, lorsque leur démon s'en ira, non cependant que jamais il reste d'eux une mémoire pure. Ô Ugolin de Fantoli, en sûreté est ton nom, parce que ne s'attend plus de toi qui puisse en forlignant l'obscurcir. Mais va, Toscan, car trop plus maintenant me délecte le pleurer que le parler, tant notre pays m'a serré le cœur. Nous savions que ces chères âmes nous entendaient aller, et ainsi, en se taisant, elles nous donnaient confiance dans le chemin. Lorsqu'ayant avancé, nous fûmes seuls, semblables à la foudre qui fend l'air, de devant nous vint une voix. « Me tuera quiconque me rencontrera. » Et elle s'enfuit, comme s'éloigne le tonnerre qui subitement déchire la nuée. Lorsque d'elle notre ouïe eut trêve, tout à coup une autre, avec un tel fracas qu'elle ressemblait au tonnerre qui suit un autre tonnerre, « Je suis Aglore, qui devint rocher. » Et alors, pour me serrer contre le poète, en arrière je portais le pied et non en avant. Déjà partout l'air était tranquille. Et lui me dit « Cette voix est le dur frein qui devrait retenir l'homme dans ses bornes. » Mais vous prenez l'appât de sorte qu'à soi vous tire l'hameçon de l'antique adversaire et ainsi peu vous serre le frein ou l'appel. Le ciel vous appelle, autour de vous il tourne, vous montrant ses beautés éternelles et votre œil à terre seulement regarde. Pour cela, vous châtie celui qui voit tout. Chant 15e. Entre la fin de la troisième heure et le commencement du jour, autant il apparaît de la sphère toujours en mouvement, comme l'enfant qui joue, autant paraissait-il en rester au soleil pour achever son cours. Là était le soir, et ici le milieu de la nuit, et les rayons me frappaient en pleine face, parce que nous tournions le mont de manière que nous allions droit vers le couchant. Lorsque je sentis mes yeux éblouis d'une splendeur plus vive qu'auparavant, et que de stupeur me remplissaient les choses nouvelles. D'où, au-dessus de mes sourcils, je levai les mains et me fis une ombrelle qui diminuait l'excessive lumière. Lorsque de l'eau ou du miroir rejaillit le rayon, en direction contraire, remontant de la même façon qu'il est descendu, et par son égale vitesse différent de la pierre qui tombe, selon que le montrent l'expérience et l'art, ainsi me parut-il que de devant me frappait une lumière réfléchie, par quoi à fuir mes yeux furent prompts. Qui est, dis-je, doux père, celui contre qui ma vue ne peut trouver d'abri suffisant et qui paraît s'avancer vers nous? Ne t'étonne point si t'éblouissent encore les serviteurs célestes, me répondit-il. Celui qui vient est envoyé pour nous inviter à monter. Bientôt, voir ces choses ne te sera point une peine, mais un plaisir, autant qu'à le sentir ta nature te dispose. Lorsque nous eûmes joint l'ange béni, d'une voix joyeuse il dit « Entrez par ici, dans un escalier beaucoup moins roide que les autres. » Parti de là, nous montâmes et derrière nous fut chanté « Beati misericordes » et « Toi qui vins, réjouis-toi ». Mon maître et moi, seuls tous deux, en haut nous allions et en allant je pensais à tirer profit de ses paroles et vers lui je me tournais ainsi demandant « Que voulait dire l'esprit de Romagne en parlant d'exclusion et de compagnon ?» Et lui à moi, « Il connaît le dommage que cause son plus grand vice, et ainsi que l'on ne s'étonne pas s'il le reprend pour que moins on en pleure. Parce que vos désirs s'attachent à ce qui diminue, partagez entre plusieurs, l'envie vous gonfle de soupirs. Mais si les élevait l'amour de la sphère suprême, en votre cœur ne serait point cette crainte. Car là, on dit plus nôtre, chacun ne possède de bien, et plus dans ce cloître augmente l'ardeur de la charité. Je suis loin d'être satisfait, dis-je, que si d'abord je m'étais tu, et plus de doute en mon esprit s'amasse. Comment se peut-il qu'un bien partagé rende plus riche de soi beaucoup de possesseurs que si de peu il était possédé? Et lui à moi, parce que tu arrêtes ta pensée aux seules choses de la terre. De la vraie lumière tu ne tires que ténèbres. Cet infini et ineffable bien qui est là-haut court à l'amour, comme le rayon au corps que le reflète. Autant il trouve d'ardeur, autant il se donne, de sorte que plus s'étend la charité, plus sur elle s'épand l'éternelle vertu. Et plus là-haut il est d'âmes unies, plus à l'amour le bien se prodigue et plus on s'aime, et comme un miroir l'un à l'autre on rend. Et si ma raison ne te rassasie pas, tu verras Béatrice, et pleinement par elle satisfait sera ce tien désir, et tout autre désir. Tâche seulement que soient guéris, comme déjà deux le sont, les cinq plaies que ferme la douleur. J'allais dire, tu apaises ma faim, quand je m'aperçus que j'étais arrivé à l'autre cercle, de sorte que, désireux de voir, je me tus. Là, il me sembla être soudain ravi en une vision extatique et voir dans un temple plusieurs personnes. Et à l'entrée, une femme, avec une douce contenance de mère, dire « Mon fils, pourquoi envers nous as-tu ainsi agi? Voilà qu'affligés ton père et moi, nous te cherchions. » Et dès qu'elle se tut, ce que j'avais vu s'évanouit. Ensuite, un autre m'apparut. Les joues baignées de ces eaux que fait couler la douleur d'un grand affront reçu. Et elle disait, « Si tu es le maître de la ville dont parmi les dieux le nom excita un si vif débat, et d'où rayonne toute science, venge-toi de ces bras audacieux qui embrassèrent notre fille, ô Pisistrate. » Et le Seigneur humain et doux me semblait lui répondre avec un visage calme, « Que ferons-nous à qui nous veut du mal ?» si celui qui nous aime est par nous condamné. Puis je vis des gens, enflammés de colère, lapider un jeune homme en criant l'un à l'autre « Tue, tue !» Et lui, je le voyais, appesanti déjà par la mort, penché vers la terre, mais les yeux toujours fixés au ciel, et avec un visage où se peignait la pitié, en un si grand combat, prier le Seigneur Très-Haut de pardonner à ses persécuteurs. Lorsque revenant à soi, mon âme se tourna vers les choses qui hors d'elles sont vraies, je reconnus mon erreur non dépourvue de vérité. Mon guide, me voyant pareil à un homme qui rompt les liens du sommeil, dit « Qu'as-tu que tu ne peux te soutenir ? Tu as cheminé plus d'une demi-lieue, les yeux voilés et les jambes vacillantes, comme un homme pris de vin ou de sommeil. Ô mon doux père, si tu m'écoutes, je te dirai, répondis-je, ce qui m'est apparu lorsqu'ainsi mes jambes fléchissaient. Et lui, eusses-tu sans masque sur la face, tes pensées ne me seraient point cachées, si fugitives qu'elles fussent. Ce que tu as vu, c'était pour que tu ne refusasses pas d'ouvrir ton cœur aux eaux de la paix, qui coule de l'éternelle fontaine. Je n'ai point demandé, qu'as-tu, par ce qui fait que demande celui qui regarde seulement avec l'œil, qui ne voit pas quand le corps gît inanimé. Mais j'ai demandé, pour donner de la force à ton pied, ainsi faut-il exciter les paresseux, lents à user de la veille lorsqu'elle revient. C'était le soir, et nous allions, regardant tout, tant que la vue pouvait s'étendre, à l'encontre des rayons tardifs et brillants, quand peu à peu, voici venir vers nous une fumée obscure comme la nuit, et nul endroit pour s'en abriter, elle nous priva des yeux et de l'air pur. Chant 16e. Les ténèbres de l'enfer et d'une nuit sans planète sous un ciel pauvre, obscurci autant qu'il se peut par des nuages, n'étendirent jamais sur ma face un voile aussi épais que le fit cette fumée qui là nous couvrit. Elle ne permettait pas que l'œil restât ouvert, ce qu'avisant ma fidèle escorte s'approcha de moi et m'offrit son épaule. Comme va l'aveugle derrière son conducteur pour ne pas s'égarer et ne pas se heurter contre quelque chose qui le blesse, ou peut-être le tue à travers l'air âcre et souillé, je m'en allais écoutant mon guide qui disait seulement « Prends garde à ne te point séparer de moi ». J'entendais des voix et chacune d'elles paraissait demander paix et miséricorde à l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Agnus Dei était leur seul exorde. Elles semblaient n'avoir toutes qu'une parole, qu'un chant, si parfaite était leur concorde. « Quels sont, maître, les esprits que j'entends, dis-je ? » Et lui à moi, « Apprends le vrai, et qu'ils vont déliant le nœud de la colère. Mais toi, qui es-tu qui fend notre fumée et parle de nous, comme si encore tu divisais le temps par calende ? » Ainsi parla une voix, sur quoi mon maître répondit « Réponds et demande si par ici l'on monte. » Et moi, « Ô créature, qui te purifie pour retourner belle à celui qui te fit, tu entendras merveille si tu me suis. »« Je te suivrai autant qu'il m'est permis, » répondit-elle, « et si la fumée ôte le voir, l'ouïr en sa place nous tiendra joint. » Lors je commençais, avec cette enveloppe que la mort dissout en haut, je vais, et ici je suis venu à travers les angoisses infernales. Si Dieu m'a comblé de sa grâce jusqu'à vouloir que je voie sa cour d'une manière maintenant tout à fait inaccoutumée, ne me scelle point qui tu fus avant la mort, mais dis-le-moi et dis-moi aussi si je vais bien vers le passage et que tes paroles soient notre guide. Je fus Lombard et nommé Marc. Je connus le monde et j'aimais cette valeur devant laquelle chacune aujourd'hui débande son arc. Pour aller en haut, tu suis la droite voie. Ainsi répondit-il, et il ajouta, « Je te conjure de prier pour moi quand tu seras là-haut. » Et moi, à lui, « J'engage ma foi de faire ce que tu demandes. Mais en moi est un doute que je ne saurais contenir et qu'il faut que j'explique. » Il était d'abord simple, et à présent il est devenu double, en rapprochant ce que tu m'assures ici de ce qu'on m'a dit ailleurs. Il est bien vrai, le monde est aussi dépeuplé de vertus que tu me le représentes, et plein et regorgeant de malice. Mais je te prie, indique-moi la cause, de sorte que je la vois et la montre aux autres. L'un la place dans le ciel, et un autre ici-bas. Un profond soupir, un hélas douloureux, il poussa d'abord. Puis il commença « Frère, le monde est aveugle, et bien voit-on que tu en viens. Vous qui vivez, vous cherchez la raison de tout au ciel, comme s'il emportait tout dans son mouvement par nécessité. S'il en était ainsi, en vous serait détruit le libre arbitre, et point ne serait-ce justice de recueillir pour le bien la joie, pour le mal les pleurs. Du ciel, vos mouvements ont leur commencement. Je ne dis pas tous, mais supposez que je le dise, pour discerner le bien et le mal, une lumière vous est donnée et le libre vouloir. Qui ne se refuse point à la fatigue des premiers combats contre le ciel, résiste puis vainc tout s'il se nourrit bien. À une force plus grande et à une nature meilleure, libre vous êtes soumis, et celle-ci en vous crée l'esprit que le ciel n'a pas sous sa dépendance. Si donc le monde présent dévie, en vous en est la cause. En vous doit-elle être cherchée, et je vais te la découvrir. De la main de celui qui en elle se complète avant qu'elle soit, comme un petit enfant qui rit et pleure et ne sait pourquoi, simplette sort l'âme qui ne sait rien, sinon que mue par qui l'a créée pour la joie, volontiers elle se tourne vers ce qui l'amuse. D'un léger bien, d'abord, elle sent la saveur, et se trompant, elle court après si un guide ou un frein n'infléchit son amour. D'où il convient qu'il y ait des lois pour imposer un frein, et un roi qui de la vraie cité discerne au moins la tour. Il y a des lois, mais qui les prend en main? Personne. Parce que le pasteur qui précède peut ruminer, mais n'a pas les ongles fendus. C'est pourquoi le peuple qui voit son guide rechercher le seul bien dont il est avide s'en repaît et ne demande rien de plus. Ainsi, tu peux voir qu'être mal régi est la cause qui a rendu le monde criminel et non la nature corrompue en vous. Rome, qui au bien ramena le monde, avait coutume d'avoir deux soleils qui montraient les deux routes, celle du monde et celle de Dieu. L'un a éteint l'autre et l'épée est jointe à la crosse, et mal convient-il que par vive force ils aillent ensemble, parce que joint, l'un ne craint pas l'autre. Si tu ne me crois, regarde à l'épi, car toute plante se connaît par sa graine. Dans le pays qu'arrose l'Adige et le Pô, on trouvait la valeur et la courtoisie avant que Frédéric fût en querelle. Maintenant, peut y passer sûrement quiconque par honte évite de discourir avec les bons et de s'en approcher. Bien s'y voit-il encore trois vieillards en qui l'âge antique réprimande le nouveau, et il leur semble que tard Dieu les appelle à une meilleure vie. Conrad de Palazzo et le bon Gherardo et Guido da Castello qui, à la française, mieux est nommé le simple Lombard. Aujourd'hui, l'Église de Rome, confondant en soi deux pouvoirs, tombe dans la fange, et souille elle et sa charge. « Ô mon Marc, dis-je, bien tu raisonnes, et à présent je comprends pourquoi les fils de Lévi furent exclus de l'héritage. Mais qui est ce Gherardo que tu dis être resté comme un modèle de la génération éteinte pour être à reproche à ce siècle sauvage ?»« Où me trompe-t-on parler ?»« Où il m'éprouve, répondit-il. » Puisque, parlant toscan, tu semblais ne rien savoir du bon Gherardo. Par un autre surnom, point ne le connaît, à moins que je ne l'emprunte de sa fille Gaïa. Dieu soit avec vous. Plus longtemps que je ne vous accompagne, vois blanchir la clarté qui, à travers la fumée, rayonne. L'ange est là. Il convient que je m'en aille avant qu'il paraisse. Ainsi il parla, et plus ne voulut m'écouter.
C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagallier. Une émission disponible en podcast sur kteoradio.com et sur l'application KTO Radio.
Vous écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
Nobody knows the trouble I have seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I have seen. Glory, nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I have seen. Glory, hallelujah. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. Sometimes I'm almost to the ground. Oh, yes, Lord. Nobody knows the trouble I have seen. Nobody knows. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I have seen. Glory, hallelujah. Now you may think that I don't know. Oh, yes, Lord. But I've had my troubles here below. Oh, yes, Lord. No. Father knows the trouble I've seen. By Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. One day when I was walking along, oh yes, Lord, the sky had opened up and love came down. Knows the trouble I know. Nobody knows but my Jesus. Nobody knows the trouble I have seen. Glory, hallelujah. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows. That day, oh yes, Lord, when Jesus washed my sins away. Thank you, Lord. Oh yes, Lord. Nobody knows the trouble I have seen. No. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah.
Vous écoutez KTO Radio.
KTO Radio présente à haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui,
la Divine Comédie de Dante Alighieri. Chant 17e. Ressouviens-toi, lecteur, si jamais dans les Alpes te surprit le brouillard, à travers lequel on voit ainsi que voient les taupes à travers leur taie, de quelle façon, lorsque les vapeurs humides et épaisses commencent à se raréfier, le soleil faiblement y pénètre, et que ton imagination soit prompte à se représenter comment je revis d'abord le soleil qui se couchait. Ainsi, réglant mes pas sur ceux de mon maître fidèle, je sortis de ce nuage et retrouvai les rayons déjà morts sur les rivages bas. Ô imaginative, qui tellement quelquefois nous sépare des choses du dehors, qu'autour de nous sonneraient mille trompettes, point ne les entendrions qui te meut si ne t'excite l'essence, te meut une lumière qui s'informe dans le ciel, ou de soi-même, ou par le vouloir de celui qui en bas l'envoie. De l'impie dont la forme se changea en celle de l'oiseau, qui a chanté le plus se délecte, j'eus la vision interne et mon esprit en soi se replia si profondément qu'aucune chose du dehors n'y trouvait d'accès. Puis me tomba dans la haute fantaisie un crucifié superbe et farouche, et tel il se mourait. Près de lui était le grand Assuérus, son épouse Esther et le juste Mardochée, également intègre dans le dire et dans le faire. Et cette image s'étant brisée d'elle-même, comme une bulle à laquelle manque l'eau où elle se forma, dans ma vision surgit une jeune fille, pleurant et disant « Ô reine, pourquoi par colère as-tu voulu ne plus être ? Tu t'es tuée pour ne pas perdre Lavinia, et maintenant tu l'as perdue. Elle-même suis-je, moi qui pleure, mère, ta mort avant celle d'un autre. Comme se rompt le soleil quand subitement une nouvelle lumière frappe les yeux fermés et rompu ce débat avant de mourir tout à fait, ainsi s'éteignit en moi l'imaginer, sitôt que frappa mon visage une lumière bien plus vive que celle à laquelle nous sommes accoutumés. Je me tournai pour regarder d'où elle venait, lorsqu'une voix dit « Ici l'on monte ». De toute autre pensée, elle me détourna et m'inspira un si grand désir de voir qui me parlait que rien ne l'aurait pu calmer que son objet même. Mais comme il advient devant le soleil qui éblouit notre vue et se voile de son propre éclat, ainsi ma force ici défaillait. Celui-ci est l'Esprit divin qui, sans être prié, nous indique le chemin pour aller en haut et se cache lui-même dans sa lumière. Avec nous, il fait comme l'homme fait avec soi, car qui voit le besoin et attend qu'on le prie, malignement déjà se met sur la négative. Maintenant que nos pieds obéissent à une si haute invitation, tâchons de monter avant que la nuit se fasse, après on ne le pourrait jusqu'au retour du jour. Ainsi dit mon guide, et lui et moi nous tournâmes nos pas vers un escalier, et dès que je fus sur le premier degré, je sentis près de moi comme un mouvement d'aile, et sur ma face passer un souffle, et j'entendis « Beati Pacifici », ce qui signifie « bienheureux les pacifiques », qui point n'ont en eux de mauvaise colère. Déjà, au-dessus de nous si élevés, étaient les derniers rayons qui précèdent la nuit, que de plusieurs côtés paraissaient les étoiles. « Ô ma force, pourquoi ainsi m'abandonnes-tu » disais-je en moi-même, sentant que mes jambes s'affaiblissaient. Nous étions là où l'escalier cesse de monter, fixe comme le navire qui aborde la plage. J'écoutais un peu si j'entendrais quelque chose dans le nouveau cercle, puis je me tournai vers mon maître et dis « Mon bon père, dis quelle offense expie-t-on dans le cercle où nous sommes. Si les pieds s'arrêtent, que ne s'arrête point ton discours. Et lui à moi, l'amour du bien séparé du devoir qui le règle ici se restaure. Ici est châtié le rameur paresseux. Mais pour que tu entendes mieux encore, écoute-moi, et tu retireras quelques bons fruits de notre retard. Mon fils, commença-t-il, ni le Créateur ni la créature jamais ne furent sans amour, ou naturel ou procédant de la raison, et tu le sais. Le naturel toujours est exempt d'erreur, mais l'autre peut errer dans le vice de l'objet, ou par trop peu de force. Tandis que vers les premiers biens il est dirigé, et que dans les seconds, il se mesure bien lui-même. Il ne peut être la cause d'un mauvais plaisir. Mais quand il se tord vers le mal, ou qu'avec plus ou avec moins d'ardeur qu'il ne doit, il court dans le bien, contre son Créateur agit la créature. De là, tu peux comprendre que l'amour en vous doit être la semence et de toute opération qui mérite une peine. Or, l'amour, ne pouvant détourner la vue du bien de son sujet, tout être est à l'abri de sa propre haine. Et parce que nul ne peut être conçu subsistant de soi et séparé du premier être, celui-ci jamais ne saurait être haï. Donc, si mes divisions sont exactes, le mal qu'on aime est le mal du prochain. Et cet amour sur votre limon naît de trois manières. Tel, en opprimant son prochain, espère l'excellence, et pour cela, seul il souhaite que de sa grandeur il soit jeté bas. Tel craint de perdre pouvoir, faveur, honneur, renommée, si un autre s'élève, et d'autant plus il s'en attriste, qu'il aime plus le contraire. Tel, d'une injure, paraît tant s'irriter qu'il devient avide de vengeance, et celui-ci, force est qu'il cherche le mal d'autrui. Cet amour triforme ici-dessous se pleure. À présent, je veux parler de celui qui court au bien d'une manière opposée à l'ordre. Chacun, confusément, conçoit un bien où l'âme se repose et le désire, et chacun s'efforce de l'atteindre. Si un lent amour vous attire vers lui, pour le voir ou pour l'acquérir, les tourments de cette corniche vous purifient, pourvu qu'ait précédé un juste repentir. Il est un autre bien qui ne rend pas l'homme heureux, il n'est point la félicité, il n'est pas la bonne essence de tout bien, ni dans son fruit, ni dans sa racine. L'amour qui trop s'y abandonne, au-dessus de nous se pleure dans trois cercles. Mais comme la raison montre qu'il est triple, point n'en parle afin que par toi-même tu cherches. Chant 18e. À son discours, avait mis fin le grand docteur, et attentivement il regardait sur mon visage si je paraissais content. Et moi, que pressait encore une nouvelle soif, je me taisais au dehors et au dedans je disais « Peut-être qu'en trop demandant je le fatigue. » Mais ce père vrai, qui s'aperçut du timide vouloir qu'en moi je renfermais, en parlant, me donna la hardiesse de parler. D'où moi, Maître, tant s'avise ma vue dans ta lumière que je discerne clairement tout ce que montre et trace ta raison. Je te prie donc, cher doux père, de m'enseigner quel est cet amour à quoi tu réduis toute bonne opération et son contraire. Fixe sur moi, dit-il, les regards pénétrants de l'esprit. Et te sera manifeste l'erreur des aveugles qui se font guides. L'âme, créée pour aimer, se porte vers tout ce qui plaît, sitôt que le plaisir l'éveille à l'action. De ce qui existe réellement, votre puissance perceptive attire l'image, et la déploie au-dedans de vous, de sorte que l'âme se tourne vers elle, et si vers elle étant tournée, elle s'y incline, ceci est la nature que le plaisir unit à vous par un nouveau lien. Et comme le feu se meut en haut, en vertu de sa forme, qui le porte à monter là où plus il subsiste dans sa propre matière, ainsi ayant perçu, l'âme entre en désir, qui est un mouvement spirituel, et jamais ne se repose qu'elle n'ait joui de l'objet aimé. Tu peux maintenant voir combien la vérité est cachée à ceux qui affirment que tout amour est louable en soi. Il se peut que bonne en paraisse toujours la matière, mais toute empreinte n'est pas bonne, bien que la cire soit bonne. Tes paroles et mon esprit qui les suit, répondis-je, m'ont découvert l'amour, mais de cela même naissent en moi de nouveaux doutes. Car si vient du dehors ce qui détermine l'amour, et que l'âme n'est point d'autre moteur, qu'elle aille droit ou qu'elle dévie, ce n'est pas son mérite. Et lui à moi, tout ce qu'ici voit la raison, je puis te le dire, pour ce qui est au-delà, attends Béatrice, car c'est sujet de foi. Toute forme substantielle distincte de la matière et unie avec elle a en soi une vertu spécifique, laquelle n'est sentie que par son opération et ne se manifeste que par son effet, comme la vie dans la plante par le vert feuillage. Ainsi, d'où vient l'intelligence des premières notions et le sentiment des premiers objets que l'âme appète, l'homme ne le sait. Car ils sont en vous, comme dans l'abeille, l'instinct de faire le miel. Et ce premier désir n'a rien qui mérite louange ou blâme. Or, afin qu'à elle viennent s'unir toutes les autres, innée en vous est la vertu qui conseille et qui doit garder le seuil du consentement. Celle-ci est le principe qui vous rend capable de mériter selon qu'il accueille et choisit les bons et les mauvais amours. Ceux dont la raison a été au fond ont reconnu cette liberté innée, et ils ont ainsi conservé la morale dans le monde. D'où suppose que tout amour qui au-dedans de vous s'enflamme y naisse, nécessairement en vous est la puissance de le contenir. Par libre arbitre, Béatrice entend la noble vertu, au soin de t'en souvenir si elle t'en parle. La lune, qui avait retardé son lever presque jusqu'au milieu de la nuit, semblable à un bassin embrasé, nous faisait paraître les étoiles plus rares et à l'encontre du ciel, elle parcourait la route que le soleil enflamme, alors qu'à son déclin, ceux de Rome le voient entre les Sardes et les Corses, et cette noble ombre, par qui plus renommée est Piétola que la cité mantouane, avait déposé le fardeau dont je l'avais chargé. Pour moi, mes questions ayant reçu des réponses claires et simples, j'étais comme un homme qui, à demi endormi, rêve, mais des gens qui, derrière nous, se hâtaient, dissipèrent subitement cette somnolence, et comme jadis l'Ismène et l'Azope voyaient de nuit courir sur leur bord une foule ardente quand les Thébains avaient besoin de Bacchus, ainsi par ce que je vis de ceux qui venaient, dans ce cercle presse le pas celui qu'emporte un bon vouloir et un juste amour. Ils nous eurent bientôt joints, car en courant allait toute cette grande troupe, et devant elle deux criaient en pleurant. Marie, avec hâte, courut à la montagne. Et pour subjuguer Herda, César investit Marseille et courut en Espagne. Vite, vite, que par peu d'amour point ne se perde le temps, criaient tous les autres qui suivaient. Le zèle de bien faire fait reverdir la grâce. Ô Jean, en qui maintenant une vive ferveur compense peut-être la négligence et le retard que par tiédeur vous avez mis à accomplir le bien, celui-ci qui vit, et certainement je ne vous mens pas, veut aller en haut pourvu que le soleil nous éclaire. Dites-nous donc où est le plus près passage. Ainsi parla mon guide, et l'un de ses esprits dit « Viens derrière nous, tu trouveras l'entrée. » De nous mouvoir si désireux nous sommes que nous ne pouvons nous arrêter. Ainsi, pardonne, si te paraît rudesse l'effet de la justice en nous. Je fus abbé de San Zeno de Vérone, sous l'empire du bon Barberousse, de qui, avec douleur, parle encore Milan. Est-elle a déjà un pied dans la fosse que bientôt fera pleurer ce monastère et qui s'attristera d'y avoir eu puissance parce que son fils, difforme de tout le corps et d'âme pire et qui mal naquit, y tient la place du vrai pasteur. Je ne sais s'il en dit plus ou s'il se tut, tant il nous avait devancés, Mais cela j'entendis, et il me plut de le retenir. Et celui qui en tout besoin m'avait secouru dit, « Tourne-toi par ici. » Et vois-en deux venir en gourmandant la paresse. Derrière tous les autres, il disait, « Moururent ceux pour qui la mer s'ouvrit, avant que le Jourdain vit ses héritiers. » Et ceux qui, jusqu'à la fin, ne supportèrent pas la fatigue avec les fils d'Anchise et se plongèrent eux-mêmes dans une vie sans gloire. Puis, quand ces ombres furent si loin de nous qu'on ne les pouvait plus voir, en moi entra un nouveau pensée duquel divers autres naquirent, et de l'un à l'autre tant j'ondoyais que dans le vague mes yeux se fermèrent et la pensée se transforma en songe. Chant 19e. Alors que la chaleur du jour, vaincue par la terre ou quelquefois par Saturne, ne peut plus attiédir le froid de la lune, quand les géomanciens voient avant l'aube leur fortune majeure surgir dans l'Orient par un chemin qui longtemps ne reste pas obscur, m'apparut en songe une femme bègue aux yeux louches, courbée sur ses jambes torses, mutilée des mains et de couleur blafarde. Je la regardais, et comme le soleil ranime les froids membres engourdis par la nuit, ainsi mon regard délia sa langue, puis en peu d'instants, la redressa tout entière et colora comme le veut l'amour son visage défait. Lorsqu'ainsi elle eut le parler libre, elle se mit à chanter de telle sorte que je n'eusse pu qu'avec peine détourner d'elle mon attention. « Je suis, chantait-elle, je suis la douce sirène qui, au milieu de la mer, égare les mariniers, tant de mouir le plaisir est grand. De sa route errante, j'attirais Ulysse à mon chant, qui s'accointe avec moi, rarement me quitte si pleinement je le satisfais. » Sa bouche ne s'était pas encore refermée quand soudain, près de moi, apparut une femme sainte, pour la confusion de celle-là. « Ô Virgile, Virgile, qui est celle-ci ? » vivement disais-je. Et lui venait, les yeux fixés seulement sur cette femme pudique, il prenait l'autre et, fendant ses vêtements, par devant il la découvrait et me montrait le ventre, la puanteur qui s'en exhalait me réveilla. Je tournai les yeux et le bon Virgile, « Trois fois au moins, dit-il, je t'ai répété, lève-toi et viens. Cherchons l'ouverture par où tu puisses entrer. » Je me levai. Déjà le jour remplissait tous les cercles du sacré mont et nous allions les reins tournés vers le soleil nouveau. Et le suivant, je portais le front comme qui l'a chargé de pensées et qui fait de soi un demi-arc de pont lorsque j'entendis « Venez, ici l'on passe. » d'un parler si doux et si affectueux que de pareil on n'en entend point dans ce séjour mortel. Ouvrant ses ailes, semblables à celles du cygne, celui qui ainsi nous avait parlé nous dirigea en haut entre les parois du rocher. Sur nous ensuite, il agita les pennes, déclarant « Heureux ceux qui luguent, parce que leurs âmes seront consolées. Qu'as-tu ? Qu'à terre seulement tu regardes ? Me dit mon guide, ayant tous deux l'ange un peu au-dessus de nous. Et moi, si soucieux vais-je, à cause de la nouvelle vision qui tant m'obsède, que je ne puis cesser d'y penser. Tu as vu, dit-il, cette antique magicienne qui seule désormais au-dessus de nous se lamente. Et tu as vu comment l'homme se dégage d'elle. Que cela te suffise, et de tes talons frappe la terre. Tourne les yeux vers le leur que te montre le roi, éternel dans ses orbes immenses. Tel que le faucon, qui d'abord regarde ses pieds, se tourne ensuite au cri et s'élance par le désir de la pâture qui devant l'attire, tel devins-je, et tel aussi que se fend le rocher pour donner passage à qui monte, allège jusque là où commence le circuit. Lorsque, libre, je fus dans le cinquième cercle, j'y vis des gens qui, gisant à terre, la face en bas, pleuraient. Adaesit pavimento anima mea, ce qui signifie « Mon âme s'est attachée au pavé », je les entendais dire avec des soupirs si profonds que l'on distinguait à peine les paroles. Ô élu de Dieu, dont l'injustice et l'espérance rendent les souffrances moins dures, dirigez-nous vers les hauts degrés. Si vous venez sans avoir à craindre d'être ici gisant et voulez trouver le chemin le plus court, que votre droite soit toujours en dehors. Ainsi pria le poète, et ainsi il lui fut répondu d'un peu au-devant de nous. Et moi, par le parler, je discernais celui qui était caché, et je tournais les yeux vers mon Seigneur qui, avec un signe de contentement, m'accorda ce que demandait le regard du désir. Quand je fus maître de disposer de moi, je m'approchai de cette créature que ses paroles m'avaient fait remarquer, disant « Esprit, en qui le pleurer mûrit, ce sans quoi tu ne peux retourner à Dieu, suspends un peu pour moi ton plus grand souci. Qui fus-tu et pourquoi vos dons sont tournés en haut? Dis-moi, si tu veux que je t'obtienne quelque chose, là d'où je suis parti vivant. » Et lui à moi, « Pourquoi veut le ciel que vers lui nos dos soient tournés? Tu le sauras. Mais auparavant, sias quod ego fui successor petri, ce qui signifie « Sache que je fus successeur de Pierre. » Entre Siestri et Chiaveri descend une belle rivière, de laquelle originairement ma race tire son nom. Durant un mois et un peu plus, j'éprouvais combien pèse le grand manteau à qui veut le préserver de la fange. Paraîtrait une plume tous les autres fardeaux. Ma conversion, hélas, fut tardive. Mais quand je fus fait pasteur romain, je connus la vie menteuse. Je vis que là ne s'apaisait point le cœur et que, dans cette vie, on ne pouvait monter plus haut, ce pourquoi de celle-ci en moi s'enflamma l'amour. Jusque-là, misérable et séparé de Dieu, fut mon âme tout avare. Maintenant, comme tu vois, j'en suis ici puni. Ce qu'opère l'avarice se manifeste ici dans la position renversée des âmes qui se purifient. Et le monde n'a point de peine plus amère. Comme nos yeux fixés sur les choses terrestres ne se tournèrent point en haut, ainsi la justice ici les attache à terre. Et comme l'avarice éteignit en nous tout amour du bien, par quoi se perd l'opéré, ainsi la justice ici nous tient resserrés, liés et pris des pieds et des mains, et tant qu'il plaira au Seigneur juste, nous resterons étendus immobiles. Je m'étais agenouillé et je voulais parler, mais comme je commençais s'étant aperçu par Louis seulement de mon acte respectueux, « Pourquoi, dit-il, ainsi te courbes-tu ? » Et moi à lui, « Parce que m'empresse ma droite conscience à cause de votre dignité. Redresse tes jambes et lève-toi, frère, répondit-il. Ne te trompe point. Comme toi et comme les autres, d'une seule puissance, je suis le serviteur. Si cette parole évangélique « Neque nubent » tu entendis jamais, bien peux-tu voir pourquoi ainsi je parle. Va maintenant. Je ne veux pas que tu t'arrêtes davantage, car ta présence gêne le pleurer avec lequel je mûris ce que tu as dit. J'ai là une nièce nommée Aladjia, bonne de soi, pourvu que par l'exemple, notre maison ne la rende pas mauvaise. Elle seule m'est restée là. »
C'était « À haute voix », une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, la Divine Comédie de Dante Alighieri. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagallier. Une émission disponible en podcast sur kteoradio.com et sur l'application KTO Radio. Vous écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
Tu es